Alors, si vous voulez bien ouvrir la Bible dans 2 Pierre au chapitre 3 et on va voir 15 à 18. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est bonne. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh là là, alors, je vous ai dit, on commence une série, on a commencé la semaine dernière, une série sur la santé, la guérison. Et ce que je vous expliquais la semaine dernière, et si vous ne vous en souvenez pas, ou si vous ne l'avez pas entendu, allez sur le site elbn.org et réécoutez ce message-là. Mais la révélation doit précéder la guérison. Il est vrai que pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, qui n'ont aucune révélation, Dieu va manifester sa bonté. Seulement quand nous connaissons le Seigneur depuis déjà un certain temps, eh bien, le Seigneur ne veut pas que nous restions au niveau de bébé en Christ. Il veut que nous grandissions, que nous nous tenions sur nos deux jambes et que nous puissions connaître, nous devons donc connaître sa volonté. Et il va, pour nous amener à grandir, il va nous demander de coopérer avec lui. Alors que dans la vie d'une personne qui connaît le Seigneur va vraiment avoir des interventions magistrales. Il veut montrer son amour d'une manière que la personne qui commence à marcher avec Dieu va dire « Waouh, il est bon !» Et au fur et à mesure, au lieu d'être comme un père, par exemple, si un bébé va sur commence à marcher, vous avez déjà vu un enfant qui trouve un jouet et puis qui le fait presque rouler sous une table et l'enfant peut-être va oublier qu'il est sous une table et il va se relever. Eh bien, un parent bienveillant va mettre sa main entre la tête de l'enfant et la table de manière à ce qu'il... Et l'enfant, il ne sait même pas qu'il aurait pu se faire mal ou quoi, mais il y a la main bienfaisante qui prend le dessus, l'initiative. Voilà, quand on commence avec le Seigneur, c'est cela. Mais tu imagines, toi, un jeune adulte de 20 ans qui veut ramasser quelque chose et tu as son père de 40 ans qui lui met la main entre sa tête et la table. On dirait qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas entre, déjà chez cet enfant. Mais on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le père ou chez la mère. Non ? Voilà, donc avec Dieu, c'est pareil. Dieu s'attend à ce que plus nous le connaissons, plus nous acquérions de la sagesse, de l'intelligence, et que nous coopérions avec lui. Maintenant, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 18, il est dit « Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. » C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, et Paul continue en disant « Mais il y a des gens ignorants et instables en déforment le sens. » Donc on sait qu'il est possible de déformer des choses de la Bible. Et quelles seraient les conséquences? Il dit comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Donc cela nous dit que ces gens qui sont ignorants, ils déforment certaines Écritures et parce qu'ils sont ignorants, apparemment ils sont ignorants, non pas parce que la vérité n'est jamais venue jusqu'à eux, mais parce qu'ils n'ont jamais respecter la parole qui venait à eux. Donc, résultat, sur certains sujets, ils déforment les Écritures, mais pas que sur ce sujet-là, c'est ils n'ont pas la pensée des Écritures, donc ils en déforment d'autres. Est-ce sans conséquence? Non, parce qu'il est dit, ils causent ainsi leur propre ruine. Et le mot ruine, c'est catastrophe, c'est-à-dire que leur vie est impactée, influencée, par ce qu'ils comprennent mal des Écritures. Donc c'est important de bien comprendre la Bible. Mais on ne comprend pas la Bible en écoutant une fois par trimestre la parole de Dieu. Ça n'est pas possible cela. parce qu'un sujet va être donné un dimanche et puis peut-être renforcé pendant 5-6 autres dimanches, et ce qui va apporter un équilibre à ce que l'on vient d'entendre. Et puis il y a d'autres sujets qui sont prêchés d'autres dimanches ou à l'occasion d'autres études, qui fait qu'à force d'entendre la parole de Dieu, on comprend que les Écritures s'expliquent par les Écritures. Donc s'il n'y a pas un suivi au niveau de l'écoute de la parole, vous imaginez bien qu'il y en a qui marchent avec Dieu sur une seule jambe. Et ils n'ont jamais d'équilibre dans leur vie. Et la Bible nous dit que quand on déforme les Écritures, eh bien, on va voir la ruine, ou le mot est dévastation ou catastrophe dans notre vie. C'est-à-dire que quand des choses difficiles arrivent dans notre vie, et sur cette planète Terre, tout le monde a compris, ça n'est plus le paradis, eh bien, la différence entre celui qui va se sortir d'un mauvais pas et celui qui va y rester, voire s'enfoncer, va être ce que l'on connaît des Écritures. Non seulement cela, mais il est dit, ils causent ainsi leur propre ruine, si encore ça s'arrêtait là. Il est dit, quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis, prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. C'est-à-dire que quand nous avons accepté Jésus, il nous a donné une position en lui à la droite du Père. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des esclaves de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes investis d'une autorité pour que l'ordre de Dieu règne dans notre vie. On ne peut pas imposer l'ordre de Dieu partout. En revanche, dans notre vie, on peut exiger que le chaos n'y soit pas. Je peux exiger que la maladie ne règne pas dans ma vie. Je peux exiger que le manque ne reste pas dans ma vie. Parce que c'est la position en Christ qui m'a été donnée. Mais il est dit ici que aux chrétiens, nous avons un avertissement qui est « Assurez-vous de ne pas vous laisser égarer par les erreurs des autres. » Ce qui veut dire, encore une fois, nous sommes tous appelés à vérifier ce que nous entendons de la parole et à faire en sorte que nous en entendions suffisamment pour que ce que nous entendons de la parole procure un équilibre. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout cela? Au verset 18, nous dit « Mais continuez à progresser, continuez à progresser. » Donc, on ne peut pas dire que dans la vie chrétienne, on est né de nouveau, on sait tout, on peut tout, on a tout compris, et c'est là que ça s'arrête au jour numéro 1. Non, il est dit « Continuez à progresser dans quoi ?» Dans la grâce, c'est-à-dire dans le fait de comprendre tout ce que nous avons reçu, qui est de l'initiative de Dieu et qui ne requiert aucun effort de notre part. Il y a des tas de choses que Dieu nous a données, des choses que l'on reçoit par la foi, qui sont le désir, l'initiative de Dieu et que l'on reçoit gratuitement. Nous n'avons pas à payer. Il y a des tas de choses pour lesquelles nous n'avons pas à payer, comme la vie éternelle, le pardon des péchés, le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, la guérison, nous n'avons pas à payer pour recevoir notre guérison. Et en restant malade, personne ne paye pour ses péchés non plus. Alors, on va poursuivre sur ce sujet. Et là, je vais vous demander de vraiment être attentif. Parce que délicatum, délicatum, hein. Deutéronome, chapitre 28. Alors, je vous recommande de lire le chapitre 28 dès le premier verset. Et grosso modo, les premiers 14 versets, le Seigneur dit, ça c'est sous l'ancienne alliance, d'où l'importance de savoir le prochain livre que l'on va sortir de Andrew Mack. Il vient juste d'être d'être terminé au niveau de l'édition. Il ne va pas tarder à être imprimé. Et vous l'aurez certainement en e-book avant de l'avoir même version papier. Mais il explique très bien que quand on lit la Bible, eh bien, il faut que l'on puisse discerner. Le Seigneur parlait avant la loi, pendant la loi ou après la loi. Et aujourd'hui, nous vivons après la loi. Donc Dieu ne traite pas les gens de la même manière que pendant la loi. Alors ici, il se trouve que la loi a été donnée et le Seigneur dit, notamment aux Israélites, il dit « Le Seigneur vous enverra des furoncles comme aux Égyptiens. Il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales, de pustules inguérissables. » Verset 27, pardon. « Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploités et dépouillés. Et personne ne viendra à votre secours. » Certains disent, moi j'aurais préféré rester au lit ce matin. Et la Bible nous dit que le Seigneur enverra. On est obligé d'accepter ce que c'est écrit. Non ? Vous savez, la vérité peut être mise à l'épreuve. Hein. Ce qui est écrit peut et doit être testé. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous est dit, que la parole de Dieu a été testée. Ici, dans la deuxième partie de ce chapitre 28, il est dit, le Seigneur s'adresse à son peuple et dit, bah, écoutez, si jamais vous ne faites pas, vous êtes libre, hein, ou vous faites ce que je vous dis, et dans ces cas-là, c'est la bénédiction, c'est-à-dire, bah, c'est des poivrons qui poussent dans le sable, c'est des fleurs qui poussent dans le désert, c'est vous êtes gardé, vous, tout ce que vous faites réussit, ou alors, vous avez le choix, vous ne faites pas ce que je dis, et là, eh bien, voilà ce qui va se passer. Et ce que l'on lit, c'est « Le Seigneur enverra ». Tu comprends que quelqu'un qui choisit de ne pas se lever le matin, même là, il va lui arriver un pépin. Arriver à ce stade-là, parce que le verset 61 nous dit « Il déchaînera même contre vous toutes sortes de maladies et de blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre jusqu'à ce que vous soyez exterminés. » C'est-à-dire que tu te tournes à droite, à gauche, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui va mal. Bon, Michée chapitre 6, n'allez pas plus vite que moi, hein. C'est moi qui prêche. Non, vous allez à mon rythme. Michée chapitre 6, verset 13. Il est dit, « Eh bien, j'ai commencé à vous porter des coups qui entraîneront votre ruine à cause de vos péchés. » 2 Samuel chapitre 12, verset 15. Puis Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant que Bathsheba, la veuve d'Uri, avait donné à David. C'est marqué que c'est le Seigneur qui le fait, non ? 1 Samuel chapitre 25, verset 38. Une dizaine de jours plus tard, le Seigneur le frappa d'une nouvelle attaque, il mourut. 2 Rois chapitre 15, verset 5. Le Seigneur affligea une grave maladie à Azaria. Le roi devint lépreux et le resta jusqu'à sa mort. Actes chapitre 12, verset 23. Au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il s'était réservé l'honneur dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Waouh, j'aurais pas voulu voir ça. Hein. Bien, alors ici, eh bien, on lit, Dieu enverra la maladie, Dieu enverra son ange. Et ça, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas lu, parce qu'on a tous ou pratiquement tous une Bible. Et si on l'ouvre un peu, ce qu'on est censé faire, à un moment, on va tomber sur ce genre de verset. Et quand on tombe sur ce genre de verset, il est facile pour un malade de dire ben, j'ai aucune chance de m'en sortir, j'ai plus qu'à me laisser mourir. La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3, que ce que l'on connaît des Écritures a un impact direct dans notre vie. Si tu crois que Dieu te veut pauvre, c'est-à-dire dans le manque, eh bien dans ces cas-là, tu auras beaucoup de difficultés à demander à Dieu qu'il t'aide à payer tes factures. Si tu crois que Dieu te veut malade, alors dans ces cas-là, non seulement tu auras des difficultés à lui demander qu'il te guérisse, mais si tu es logique avec toi-même, tu ne devrais même pas prendre de médicaments. Parce que dans ces cas-là, tu irais contre la volonté de Dieu. Or, il y a quelque chose dans l'être humain, il y a un instinct de survie, il y a quelque chose en lui qui veut vaincre la maladie et qui dit « reste en vie, ça n'est pas terminé ». Je me demande qui a mis cet instinct de survie en nous. Pourquoi est-ce que l'on se bat contre la maladie? Tous les êtres humains qui sont bien dans leur tête se battent contre la maladie. Alors, il faut que l'on puisse faire quelque chose avec ces versets-là. Parce que si ce qu'on lit n'a pas d'explication, mes amis, jetons nos médicaments pour ceux qui en ont. Les autres qui sont en bonne santé, bah, dès que vous entendez qu'il y a un virus qui passe, ne faites rien, accueillez-le. Et surtout, préparons tous un testament à des enfants qui ne pourront pas le lire d'ailleurs. Donc ça ira au gouvernement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les Écritures expliquent les Écritures. Ce qui me dit que si je continue à lire, quelque part, je dois trouver une explication. Parce que ce n'est pas possible que j'ai donné ma vie à un Dieu pareil. Ce n'est pas possible. Ou alors, si vraiment c'est ce Dieu-là à qui je donnais ma vie, je ne suis pas sûre de vouloir passer l'éternité avec lui. Croyez-vous qu'il y ait une explication à cela? Alors, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de faute. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité incomplète. Il y a des mystères, mais ce qui est un mystère est simplement quelque chose d'intelligible qui est caché et que Dieu veut nous révéler. Un mystère n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose d'intelligible qui est caché. Mais la parole de Dieu est fiable. On peut miser notre vie sur les paroles de ce livre-là. Vous voulez, regardez avec moi dans Exode chapitre 12. Exode au chapitre 12. Alors, si vous avez, si vous marchez avec le Seigneur depuis pas mal de temps et que vous étudiez, vous avez dû entendre qu'en hébreu, il y a le sens permissif et le sens causatif. Le sens permissif, c'est au lieu de dire Dieu enverra, c'est Dieu permet qu'il soit envoyé. Et le sens causatif, c'est Dieu qui commissionne, Dieu qui mandate, Dieu qui envoie, Dieu qui est l'initiateur, Dieu qui est l'auteur, Dieu qui a l'intention de. Et c'est vrai, je l'ai lu moi-même plusieurs fois. J'ai lu des commentaires de gens qui sont vraiment versés dans l'hébreu, en ce qui nous concerne ici, puisqu'on a lu les textes essentiellement de l'Ancien Testament. Et plusieurs fois, je l'ai entendu. Mais il faut quand même se dire que ce que l'on a entendu et qui fait partie de la grammaire humaine, on doit quelque part pouvoir expliquer la même chose dans les Écritures. Je vous ai perdu là, non? J'ai l'impression que je vous ai perdu, non? Ce qui est bien, c'est que vous pourrez réécouter sur le site. Donc, profitez-en. Hein. Mais Il est vrai, en hébreu, il y a le sens causatif et le sens permissif. Dieu, par exemple, on lirait, Dieu, l'Éternel le frappa d'une maladie, à vrai dire, ce serait l'Éternel permettra qu'il soit frappé d'une maladie. Et la nuance est énorme. Mais dans les Écritures, qu'en est-il? Vous avez trouvé Exode chapitre 12. Est-ce que Dieu aujourd'hui permet beaucoup de choses? Oui, la Bible nous dit que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Et il est dit aussi dans les Écritures que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, afin que tous soient sauvés. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu s'est arrangé pour que les péchés de tous soient pardonnés, malgré sa volonté. Est-ce que tout le monde va au ciel? Ben, vous et moi savons que non. Tout le monde ne va pas au ciel. Mais est-ce que cela remet la volonté de Dieu en question? Non. Tout le monde ne va pas au ciel parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire, qui ne s'intéressent pas à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Et ceux qui rejettent le sacrifice de la croix, le sacrifice grâce auquel nos péchés ont été payés, alors s'ils rejettent ce sacrifice, quand ils quittent cette terre, ils devront payer pour leurs propres péchés. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Est-ce que Dieu veut cela? Non. Mais d'une manière, il permet. Est-ce que Dieu a envoyé une seule personne en enfer? Hein? Mais il vaut mieux qu'on réponde à cette question. Non, il n'a envoyé personne en enfer, même pas le diable. Le diable y a été parce qu'il a choisi de se rebeller. Il est celui qui a créé le premier péché. Il dit, il est père du mensonge. Donc, Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui y aille. Et malgré cela, il y en a qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu permet que leur volonté soit faite. Alors, Exode chapitre 12. Il est dit à partir du verset 12... « Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, de l'homme au bétail, et je ferai justice de tous les dieux d'Égypte, c'est moi le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc, ici, on se dit, bah, tu vois, c'est Dieu qui va tuer tous les premiers-nés. C'est ce que l'on nie, d'accord? Bien, sauf que verset 23, dit à ton voisin, sauf que. Le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper et il verra le sang sur le linteau et les deux montants. Alors le Seigneur passera devant la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Ah, là est la nuance, et elle n'est pas en hébreu, elle est dans le texte. C'est-à-dire que qui est celui qui frappe? Qui est celui qui tue? Est-ce Dieu? Non! C'est le destructeur! Est-ce que cela ne vous fait pas penser à Jean 10, verset 10, on va le lire ensemble. « Il ne permettra pas au destructeur d'entrer pour frapper. » C'est-à-dire qu'apparemment, le Seigneur n'a pas pu faire autrement que de retirer sa protection. Regardez, dans Jean 10, 10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger ou dérober, égorger et détruire, Jésus parle et il dit même moi. C'est-à-dire qu'il est en train de se comparer et ici, il va nous dire, vous avez un individu qui n'a qu'une chose en tête, c'est de voler, d'égorger, de dérober, de détruire, et notamment c'est lui qui vole la santé aux gens, c'est lui qui dérobe, et Jésus nous dit surtout, ne mélangez pas les individus. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et même en abondance. Ce qui veut dire que là où le voleur a sévi, moi si vous le souhaitez, je viens et vous mesurez la dévastation que le voleur a causée dans votre vie. Et moi, je vais mesurer ce dont vous avez besoin et la vie en abondance effacera toute la destruction du diable dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez regarder tous les domaines de votre vie, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit matériel, peu importe, vous pouvez mesurer les dégâts du diable dans votre vie, mais si vous vous arrêtez à mesurer les dégâts du diable dans votre vie uniquement, vous allez avoir les yeux sur votre nombril, vous serez égocentrique, vous ne penserez qu'à réclamer de l'aide, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et pour sortir de cet état-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dire, mais la fin de la phrase, c'est d'avoir les yeux tournés vers Jésus et dire, maintenant, je vais mesurer ce qui s'est passé dans ma vie à la lumière de la croix. Et la Bible nous dit, à combien plus forte raison ? Romains, à combien plus forte raison, à combien plus, bien plus haut, c'est-à-dire, tu ne pourras jamais comparer ce que le diable a fait avec ce que Jésus a fait à la croix, jamais, ça n'est pas inégalable, tu comprends que le diable n'est pas un ennemi égal à Dieu. C'est-à-dire que le diable n'est pas un ennemi égal à toi en tant que fils de Dieu, il n'est pas ton égal, cesse de lui accorder l'importance qu'il n'a pas. La Bible nous dit, il est vaincu. Au cas où on ne s'en rappellerait pas, il est vaincu. La Bible nous dit, il est sous nos pieds. Il n'est pas ton égal. Maintenant, il fera ce qu'il veut de ta vie si toi tu le traites en égal. Si tu te considères toi vaincu, si tu as une mentalité de victime, alors là, il va utiliser des mensonges pour te faire croire que ce que tu penses est vrai et il aura le dessus dans ta vie. Mais la Bible nous dit, il faut, tu ne peux pas déformer les Écritures. Si tu déformes les Écritures, alors ta vie sera impactée par le mensonge, par le manque, par la maladie. Mais ici, Jésus dit, ne nous comparez pas, nous ne sommes pas dans le même monde. Il dit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas quelqu'un qui détruit, je ne suis pas quelqu'un qui égorge, je ne suis pas, on n'a rien de commun. Tout à l'heure, on a lu dans le texte qu'il est dit, Dieu est celui qui a dû permettre. Vous savez, le diable est sur cette terre. Ça semble bizarre, hein? Mais la maladie est sur cette terre. Tu n'as pas besoin de croire pour être malade. Elle est présente. Mais ça n'est pas parce que la maladie est présente sur cette terre que tu dois accepter d'être malade ou de rester malade. Ce n'est pas parce qu'il y a le manque sur cette terre que tu dois accepter de vivre dans le manque. Ce n'est pas parce qu'il y a la confusion sur cette terre que tu dois accepter de vivre dans la confusion. Tout ce que Dieu a est à notre disposition pour que nous vivions à son image en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne serons pas enfants de Dieu quand nous irons au ciel. Maintenant, nous sommes déjà enfants de Dieu. Alors, continuons. Au verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. C'est un mercenaire, hein. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Dieu est bon, Dieu n'est que bon, il n'est pas un loup, il n'est pas un mercenaire, c'est un père, et c'est un père, la Bible nous dit, de lumière. Maintenant, continuons avec Juges chapitre 2. Question, y a-t-il une différence entre permettre et commissionner? Donc on voit que dans le texte, quand il est dit « Dieu frappera les premiers-nés », à vrai dire, le texte nous dit « Non, Dieu ne frappera pas personnellement ». Mais tu imagine un petit peu, Dieu est le Dieu de la vie. Tu imagines qu'à chaque fois qu'il touche quelque chose, c'est le succès et c'est la vie. À chaque fois que Dieu, le regard de Dieu suscite la vie, il explose de vie. Il est la vie suprême. Comment veux-tu qu'il puisse donner la maladie à quelqu'un? D'où sortirait-elle de lui? Parce qu'il ne l'a pas. Il n'a pas la maladie. Son regard provoque la santé. De sa bouche émane la vérité. Tout en lui, il rayonne de la puissance de la vie. Tu sais, la plus grande puissance électrique sur cette terre n'est rien à côté de la puissance de vie qu'il y a dans notre Dieu. C'est tellement vrai que même la Bible dit que l'ombre de ceux qui ont cette vie apporte la guérison. Tu imagines, toi? C'est-à-dire que tu marches à l'ombre de Dieu. Il y a tout en toi qui respire la vie, qui respire la santé, qui respire la prospérité, qui respire rien qu'à l'ombre. Alors on commence à voir que les versets que nous avons lus sont des versets qui ne peuvent pas dire, même si on ne comprend pas l'hébreu, qui ne peuvent pas dire que c'est Dieu qui envoie lui-même les hémorroïdes. Ce n'est pas lui qui envoie directement. Il ne peut pas le faire. En revanche, il y a un destructeur. Dans Juges, chapitre 2, et pourtant, vous savez combien de chrétiens utilisent ces versets pour dire que Dieu rend les gens malades? Dieu ne rend personne malade. Il ne peut pas. Techniquement, il ne peut pas rendre quelqu'un malade. Juges chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit « Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. » Qui a dépouillé? Dieu? Les pillards. Mais ce qui faisait la différence, c'était la protection de Dieu ou pas. Il les livra aux ennemis. Ça veut dire qu'il a permis qu'il les entourait, si bien qu'ils ne purent leur résister. Néhémie chapitre 9. Est-ce que Dieu a autorisé le pillage parce qu'il est injuste? Non! Non! Hébreux chapitre 9, versets 26-28. Néhémie, pardon. Chapitre 9. Il est dit « Pourtant, ils ont été indociles, ils se sont révoltés contre toi, ils ont tourné le dos à ta loi, ils ont assassiné tes prophètes qui les pressaient de revenir à toi, leur conduite a été ignoble. Alors tu les as livrés au pouvoir d'ennemis qui les opprimèrent. » Qui a opprimé ces révoltés? Est-ce que c'est Dieu qui les a opprimés? Non, la Bible dit « c'est leur ennemi ». En revanche, devant leur condition de cœur, écoutez bien, c'est-à-dire devant leur choix. C'était leur choix, devant les choix qu'ils faisaient. Et la Bible nous dit, Dieu est patient, nous sommes d'accord. Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient. Et bien qu'ils péchaient, Dieu dans sa patience était en train de les protéger. ils sentent qu'à un moment, ils ont tellement poussé le bouchon de la rébellion, qu'à un moment, parce que Dieu est juste, ils ne pouvaient plus continuer à les protéger de l'ennemi qui était déjà là. Dans ce sens, il est dit, il les a livrés. Mais ça ne veut pas dire qu'il a sifflé l'ennemi en disant « Hé, venez ici, là, parce que là, il y a un truc, ils me prennent la tête, j'en ai marre, je ne peux plus les voir, je ne peux plus entendre leurs cris. Venez, 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 venez !» Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas celui qui envoie la gale. Dieu n'est pas celui qui met un cancer à quelqu'un. Non, c'est déjà présent sur cette terre. Mais il y a quelque chose que je veux vous faire remarquer ici. Vous êtes content que l'on puisse connaître les Écritures ? Donc, même sans connaître la différence entre le sens causatif et permissif, parce qu'on n'a pas fait l'hébreu, dans les Écritures, on voit que ce principe existe. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 26, verset 45. Il est dit, puis il revint auprès des disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Maintenant l'heure est arrivée et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Donc ici, on va comprendre ce qui se passe. D'abord, le verbe livrer est très souvent traduit par trahi. Pourquoi ? Parce que celui qui est livré est quelqu'un qui a trahi. Souvent lui, il a été trahi. Mais sinon, celui qui est livré est souvent celui qui a trahi Dieu. Ici, il nous est dit... Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il y a quelque chose qu'il faut noter ici. C'est que quand il est dit qu'il a été livré, il n'y a rien d'injuste dedans. Parce que notez que ceux qui disent que Dieu est celui qui envoie la maladie, dans le sens qu'il est celui qui décide d'envoyer, de rendre quelqu'un malade, ça a toujours un sens qui est injuste. C'est injuste. Ici, il est dit, il a été livré, il n'y avait rien d'injuste. Et ailleurs, la Bible nous dit pourquoi il a été livré, c'est parce que la volonté de Jésus a été impliquée dans le processus. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Ce qui veut dire que quand on voit que Dieu a livré... C'est parce que la volonté des gens, quelque part, était impliquée dans le fait que Dieu ne pouvait rien faire d'autre. Quand il est dit que Dieu envoya des furoncles, envoya la gale, envoya des hémorroïdes, envoya des cancers, s'est opposé à la prospérité, à tout ce que l'on veut, quelque part, Dieu n'a fait que livrer les gens parce que quelque part, c'était leur volonté. Il y avait leur volonté, quelque part, qui était impliquée là-dedans. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu le faire. Alors, tu vas dire, oui, mais alors, il y a tellement de gens qui sont malades sur cette terre, il y a même tellement de chrétiens qui sont malades, où est-ce qu'on peut voir leur volonté là-dedans ? Eh bien, la volonté du malade vient du fait qu'il, ou bien, se soumet à la volonté, et Dieu ne peut rien faire, ou à la maladie, et Dieu ne peut rien faire, ou alors la volonté de ce malade est de dire « Je refuse cette maladie, et Dieu est obligé de le protéger. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est obligé d'accepter à cause de notre volonté. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement. Partout quand on voit dans les Écritures, Dieu envoya ci, Dieu envoya la destruction. Non, non, Mais quelque part, la volonté de Dieu a été impliquée et Dieu ne peut pas faire autrement que de regarder la destruction qui prend le pas sur la vie de ses bien-aimés. Regardez ce qu'il est dit dans, par exemple, Romains chapitre 1, verset 24. Donc on voit bien, il est dit que Jésus a été livré, mais Jésus n'a pas été livré juste alors qu'il ne voulait pas. La volonté de Jésus a été de se donner, et parce que sa volonté a été impliquée, il a été livré. Dans Romains chapitre 1, verset 24, il est dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés ». Il est parlé de ceux qui ont des relations homosexuelles. « Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. » C'est-à-dire que la volonté de ces personnes a été impliquée dans ce péché, et même si Dieu les a prévenus, ils ont continué, et à un moment, Dieu a été obligé de dire « Eh bien, je ne peux pas faire autre chose que de laisser faire. » Il y a combien de personnes sur cette terre ? C'est dans ce sens qu'il faut comprendre « Dieu envoie, Dieu fera, Dieu détruira. » Non, ça n'est pas lui qui est le destructeur, nous le comprenons. Et encore, on a vu deux versets, il y a tellement d'autres versets qui nous parlent du destructeur. Dieu n'est pas un destructeur, mais Dieu ne peut pas non plus aller contre la volonté des gens. Dieu ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui aille en enfer. Et malgré cela, il est obligé d'en livrer certains à l'enfer, trop, hein, alors qu'il ne veut pas qu'il y ait un seul qui aille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il en soit autrement. Donc quand vous lirez les Écritures dans l'Ancien Testament qui dit « Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela », arrêtez-vous et dites « Mon Dieu n'est pas injuste ». Ça n'est pas vrai. Mon Dieu est un juste juge. Mon Dieu est un père. Et s'il n'a pas pu faire autrement que de laisser faire le destructeur, ça veut dire que la volonté des gens a été impliquée. Et malheureusement, très souvent, la volonté des gens est impliquée par l'ignorance qu'ils ont. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 19, il est dit « Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. » Eh bien là, ils se sont livrés. On ne peut que dire « Oui, la volonté des gens est impliquée. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas victimes. La volonté des gens est impliqué. Vous rappelez de ce chapitre dans Nombre chapitre 21, je vais juste vous le citer, quand il est dit que les Hébreux sont sortis d'Égypte à coups de miracle, Dieu les a délivrés, il a fait un miracle pour que la mer Rouge s'ouvre en deux, et ils ont commencé leur marche, d'accord, dans le désert, mais ils étaient en route vers leur terre promise. Hein? Et puis, à un moment, ils ont commencé à se plaindre. Oh, « J'en ai marre, on mange toujours, il n'y a pas de viande, et puis j'en ai assez. Moi, je regrette les oignons avec un GN qu'on avait en Égypte. Et je regrette le persil. Regarde, il n'y a pas de coriandre ici, c'est nul, j'en ai assez. Après tout, nous, on n'avait rien demandé. » Dieu a entendu les murmures, il a entendu les murmures. Et il dit, « Puisque c'est comme cela, je vais vous donner des cailles et je vais vous donner la viande jusqu'à ce que vous disiez j'en ai assez. » Mais il y a autre chose qui s'est passé avant. C'est que la Bible nous dit que le Seigneur, dans le texte, il est dit qu'il a envoyé des serpents venimeux dans le camp. Non mais tu imagines, toi, il délivre son peuple des ténèbres, il délivre son peuple d'Égypte et pour aller vers la terre promise, géographiquement, ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller dans le désert. Voilà, c'est géographique, ils sont obligés de passer dans le désert. Mais nul n'est supposé mourir dans le désert, pas avec Dieu en tout cas. Et là, au lieu de passer 10, 11 jours de traversée, ils ont passé 40 ans. Et la Bible dit la première génération est morte Et quand on lit le texte, c'est Dieu leur a envoyé des serpents venimeux. Est-ce vrai qu'il a envoyé des serpents venimeux dans le camp? Bah, c'était dans le désert, ce n'était pas nécessaire. Le désert est plein de serpents venimeux, le désert est plein de scorpions, le désert est plein de bestioles qui sont moches et venimeuses. En revanche, à cause de leur murmure, à cause de leur rébellion, le Seigneur les a protégés et les a protégés et les a protégés. Mais vous savez, Dieu qui est un juste juge, à un moment, ne peut pas continuer à protéger son peuple alors que le diable allait être jugé des années plus tard. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire des choses injustes uniquement par amour. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'a pas envoyé dans le sens, « Bon, allez, j'en ai marre, je vais... Allez, tiens, hop, serpent, je vous appelle, allez, dans chaque temps, entrez sous chaque couverture, allez dans les berceaux, allez de partout, allez-y !» Non, ils y étaient déjà. Mais le Seigneur ne pouvait plus les protéger. Dans ce sens, il les a livrés. Pourquoi? Parce que la volonté des gens était impliquée. Donc non, Dieu n'envoie pas la maladie. La maladie, elle est déjà présente. Beaucoup de gens sont malades, ça peut être pour différentes raisons. Il y en a qui sont malades parce que ils continuent de mal manger. D'autres continuent de ne pas dormir. D'autres continuent de... Ils abusent de leur corps. Donc la maladie est là, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour qu'elle prenne le dessus. Il y a des gens qui sont malades par ignorance. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont victimes de la méchanceté des autres quand on leur envoie des gaz moutarde au-dessus d'eux, etc. Il y a beaucoup de raisons. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que quand nous voyons dans la Bible « Dieu envoya », ne pensons jamais qu'un Dieu méchant, un père injuste, est quelqu'un qui siffle la maladie en disant « Allez-y ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Quand la maladie est entrée quelque part, elle a été autorisée. Je vais vous dire, la maladie vient très souvent à cause de nos paroles. Oh, tu sais, moi, tous les hivers, je prends un rhume. Tu sais, non, je ne vais pas manger de ça parce qu'à chaque fois que j'en mange, je suis malade. La Bible dit que nous avons ce que nous disons. Voyez-vous, c'est que notre volonté, elle est quelque part là-dedans. Mais pour celui qui connaît la volonté de Dieu, pour celui qui sait qui il est en Christ, la Bible dit, il ne perd pas sa position. C'est-à-dire que nous, quand nous savons que la maladie est peut-être, il y a un virus qui arrive ou quoi, eh bien nous pouvons parler ce que la Bible dit. C'est-à-dire que mon Dieu est celui qui me protège. Et quand je dis ça, je lui dis, voilà ma volonté. Ma volonté, c'est que moi et ma famille, nous restions en bonne santé. Ma volonté, c'est que nous vivions une retraite en bonne santé. Ma volonté est que jamais rien ne se casse en moi. Ma volonté est ce qu'aucune arthrite, par exemple, ne puisse s'approcher de moi. Tu comprends? Mais même un chrétien qui continue à parler la maladie, même un chrétien qui continue à abuser de son corps, par l'alcool, par la drogue, par tout ce que vous voulez, à un moment, Dieu a beau vouloir que nous soyons en bonne santé, si notre volonté est impliquée, à un moment, il ne peut plus nous protéger. Est-ce que Dieu est juste ou est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu veut que l'on soit en bonne santé? Oui, il dit, il a envoyé Jésus, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Ne vous arrêtez pas à ce que le diable, même quand on a fait de mauvais choix et que l'on se tourne vers Dieu, on dit, Seigneur, tu sais, ma volonté est que je sois en bonne santé. Ma volonté est que je vive une vie qui soit à ta gloire, qui reflète ta victoire, qui reflète ton règne. Alors le Seigneur dit, ah, gloire à Dieu, tu me fais plaisir. Tout ce que j'ai est à toi, vas-y, vis. Donc, j'espère qu'à la lumière de ce qui a été dit, quand vous allez lire les Écritures, eh bien, vous allez comprendre que Dieu n'est pas l'instigateur des problèmes, il n'est pas celui qui vole, il n'est pas celui qui détruit, mais il n'est pas non plus celui qui va contre la volonté de quelqu'un. À chaque fois que nous déclarons la parole de Dieu, nous déclarons notre volonté. À chaque fois. Et nous disons, voilà les limites de ton intervention dans ma vie. C'est quoi ? C'est la santé, c'est la prospérité, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est l'abondance, c'est à tous les niveaux, c'est ce que tu as, mon Dieu, je le veux. Et par ma volonté, je mets des limites à l'action du diable dans ma vie. Ma volonté, je mets des limites aux actions du diable. Et par ma volonté, je libère les ressources de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, encore une fois, je suis responsable. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui me porte préjudice, je ne suis même pas obligée de rester une victime. Tu sais, si tu sais, par exemple, si tu es convaincu que Dieu n'est pas celui qui envoie la maladie dans le sens que l'on a compris, alors quand la maladie vient vers toi, tu peux dire, non, symptôme, dans le nom de Jésus, vous reculez, vous ne vous attachez pas à moi, vous sortez de cette maison, vous reculez, vous sortez de ma propriété, parce que mon Dieu veut que je sois en bonne santé et je veux être en bonne santé. Dieu ne peut rien faire pour celui qui veut rester malade. Tu dis, il y a des gens qui veulent rester malades. Oui, il y a des gens qui veulent être malades. Et s'ils veulent être malades, eh bien dans ces cas-là, Dieu ne peut rien, même s'il est la vie. Dieu ne peut pas aller contre notre volonté. Donc, la vraie question est, que veux-tu ? Hein ? Mais tu ne peux pas dire « je veux être en bonne santé » et en même temps manger n'importe comment. Oula ! Tu ne peux pas dire « je veux être en bonne santé », c'est-à-dire « Seigneur, je te dis, voilà, je veux bénéficier de tout ce que tu as pour moi » et en même temps maltraiter ton corps, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que être en bonne santé implique une coopération avec Dieu, implique la sagesse, implique de faire notre part. Eh bien, devant tous ces sourires qui sont en train de m'éblouir, là. Mais je vais vous lire ces deux versets, là. Il nous est dit dans... Juste écoutez, Lamentations 3, 31-33, le Seigneur dit « Je ne rejette pas pour toujours, et lorsqu'il afflige, donc on comprend, il a compassion selon sa grande bienveillance. Et même s'il fait souffrir, on comprend dans quel sens, il reste plein d'amour, car sa bonté est grande. » Et le verset 33 dit « Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige les humains et qu'il leur cause du chagrin, c'est-à-dire qu'il est obligé de laisser les êtres humains vivre ce qu'ils ont décidé de vivre. » C'est-à-dire que quand Dieu nous voit faire de mauvais choix et qu'il voit la dévastation qui sévit dans notre vie, eh bien, Dieu souffre. Vous imaginez que dès que l'on se tourne vers lui, qu'on dit « Seigneur, écoute, Jésus est mort pour que je sois en bonne santé, moi je veux être en bonne santé. » Et d'ailleurs, tu as remarqué que le moral d'un malade fait toute la différence. Si un malade ne veut pas guérir, même Dieu ne peut pas le guérir. Et si un malade ne sait pas que Dieu veut le veut en bonne santé, alors il va subir la maladie. Le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui vont dire « Oh, Dieu te rend malade dans le sens. » C'est son initiative, c'est son idée. Et après, on va dire « On va prier pour toi pour qu'il te guérisse. » Non, mais il y a un truc là. Il y a un truc qui ne va pas là. Mais quand on est convaincu que Dieu est Dieu de lumière, que Dieu est celui qui nous protège, que Dieu est celui qui respecte notre volonté, alors on peut être plein d'assurance et dire « Je sais ce que Dieu veut, je sais qui je suis en Christ et je sais que la maladie a été vaincue à la croix, Seigneur, je veux être guéri, je reçois ma guérison. Comment veux-tu vieillir? Hein? Est-ce que tu veux vieillir malade? Est-ce que tu veux partir de cette terre agonisant? Moi non, je ne partirai pas comme cela. J'ai déjà décidé, il est hors de question. Mais je dis ce que je veux. On sert un Dieu qui est bon. À nouveau, les Écritures s'expliquent par les Écritures. Mais on est tellement imprégné de religion ou religiosité. On est tellement imprégné d'erreurs parfois, parce que la religion fait croire que la maladie est un moyen de payer pour ses fautes. Ce que la fin de la phrase devrait être, logiquement. Alors, Dieu vous rend malade pour payer pour vos fautes parce que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Ben, qui oserait dire un truc pareil? Et pourtant, c'est ce que disent les gens qui enseignent que Dieu veut que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Donc, au cours des prochains cultes, nous allons affermir cette vérité, Dieu nous veut en bonne santé. Il s'est débrouillé pour que la maladie soit vaincue, mais à nous de décider ce que l'on veut. Gloire à Dieu. Amen.